De Chiz 94.3.
Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, Les Architectes du son.
Bienvenue à un nouvel épisode d'A priori, l'émission et balado des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Je m'appelle Charlotte et c'est encore une fois moi qui vais être votre animatrice aujourd'hui. Donc, au dernier épisode, j'ai reçu Antoine et Victor avec qui j'ai parlé de politique sous un angle un peu plus humain. On a jasé des enjeux qui entourent la vie personnelle des politiciens, à savoir si l'âge a une influence sur la compétence des députés, si un scandale au niveau de la vie personnelle devrait avoir un impact sur la carrière politique de quelqu'un. On a parlé même de l'enjeu de la détermination des salaires des députés. Puis on s'est aussi questionné à savoir s'il existe une déontologie en politique. Donc, je vous invite à écouter ça. Dans cet épisode-ci, je vais être accompagnée de Florence et Édouard et on va parler du rôle des médias dans la sphère politique. Donc, est-ce qu'il y a un rôle à jouer dans le jeu politique? Est-ce que la médiatisation des conflits internationaux, c'est quelque chose de, tu sais, de tangible? Est-ce que l'influence... On va même parler, tu sais, peut-être de l'influence des médias sur l'opinion publique et plein d'autres sujets qui m'ont l'air fascinants. Donc, j'ai très hâte de vous jaser. Non, mais avant tout, Édouard, Flo, vous êtes qui? Vous faites quoi? Pourquoi ça vous a intéressé, ce sujet-là?
Oui, allô, moi c'est Édouard. J'ai rejoint le Viapri en automne, donc un petit nouveau. Puis depuis l'automne, c'est ça, je fais partie de la délégation de l'Université Laval pour la simulation des Nations Unies à New York. Puis bien ça, ben, ça a vraiment piqué mon intérêt sur comment les médias, comment on couvre les conflits et les gros événements internationaux de notre perspective.
Ouais. Si je peux faire du bon, je m'appelle Florence, je suis en deuxième année du Biapri. J'ai déjà fait une présentation un peu dans le...
On t'a déjà réussi à l'émission.
Je suis rendue une habituée, je pense. Et je trouvais ça particulièrement important comme sujet. Dès que Charlotte a sorti l'idée du podcast, je savais que c'était quelque chose que je voulais venir parler ici. En fait, c'est une conversation que j'ai souvent eue avec mes amis dans le passé, comme... On parlait un peu, je me souviens, j'ai eu une conversation que j'ai eue avec une de mes bonnes amies, qu'on parlait justement du conflit israélo-palestinien, puis on est comme, c'est triste à quel point on dirait que c'est moins couvert maintenant, puis tout, c'est les enjeux qui sont reliés à ça. Et en ce moment, tu sais, un peu mon bagage, je fais les jeux de la science politique dans le cas académique, ce qui fait que je dois faire une recherche, vraiment, ben, une recherche sur l'Inde, et ce qui m'amène à côtoyer beaucoup la politique indienne, tout ce qui est perspective médiatique aussi de ce qui se passe là-bas. Et aussi, je suis sur une chaire de recherche sur les nouveaux enjeux de la mondialisation économique. Mmh. Et dans ce cas-là, je fais de la recherche sur les États-Unis, la Chine, et j'en parlerai un peu plus tard dans le podcast, mais de tout ce qui est rapport à la médiatisation aussi de ce conflit-là économique. Donc, je trouvais que c'était juste un sujet hyper important. Puis je me suis dit qu'Edouard pourrait être vraiment quelqu'un d'excellent pour m'accompagner dans ce sujet.
Puis ici, je trouve que c'est tellement... Parce que tu sais, on parle souvent du conflit, mais c'est rare qu'on aborde l'aspect... T'sais, des médias, puis de comment c'est couvert, puis de la perception t'sais, qu'on a. Parce que, je veux pas, les médias de nos jours, là, ça a tellement c'est une partie là,
t'sais, ah, c'est
énorme.
Là, je veux dire,
on est stimulé genre 24/7 sur nos téléphones, la télé, tout ça, la radio, on entend tout le temps les nouvelles. Puis, je veux pas, si les médias, c'est ta seule source de ben, d'information, ben, ça peut vraiment influencer ton opinion.
Fait c'est que... ça. Puis ça couvre à quel point? Ça couvre toutes les sphères du politique, du municipal jusqu'à l'international, et ça peut totalement venir faire bousculer le point de vue que tu as d'une situation. Puis tu sais, ça peut nous amener justement à regarder quel rôle que devraient prendre, disons, les médias en ce moment.
C'est quoi, selon vous, le rôle idéal des médias?
Pour moi, le rôle idéal des médias, premièrement, leur rôle premier, c'est d'informer.
Ouais.
Selon moi, ils peuvent faire autre chose qu'informer. Ça peut être choquant, ça peut être drôle, ça peut être vraiment divertissant. Un média peut être beaucoup de choses autres qu'informer. Mais selon moi, la ligne où elle se trace, c'est vraiment quand les autres aspects d'un média viennent ruiner ou empiéter sur sa capacité à bien informer les citoyens. Puis c'est ça qu'on voit aussi avec souvent les polémistes, on a beaucoup de plus en plus de panels politiques, de gens qui veulent avoir de plus en plus des opinions très extrêmes pour être sûr d'être dans les premiers, dans les premières pages, dans les premières lignes.
C'est ça, parce que j'imagine que toi, dans ta tête, ce que tu dis, c'est que l'essence même des médias,
oui,
c'est d'informer.
C'est d'informer. Puis c'est bien aussi qu'on ait une diversification des médias, comme on va en parler plus tard sur les réseaux sociaux, sur plusieurs autres plateformes. Mais il ne faut pas oublier que pour la plupart des gens, les médias, c'est là qu'on va chercher notre information. Donc, si jamais ça devient trop mêlant de décortiquer qu'est-ce qui est humour, qu'est-ce qui est sarcasme, qu'est-ce qui est...
Ben oui.
C'est ça. On peut parler aussi, faire le lien comme... Maintenant, on dit ça, une bonne pub, qu'elle soit mauvaise, qu'elle soit... Disons, une mauvaise pub, une bonne pub, tant que c'est une pub, c'est correct.
Parlez-en mal, parlez-en bien.
C'est exactement ce que je voulais
dire.
C'est
ça qu'on cherchait.
Mais que certaines informations peuvent paraître choquantes, mais c'est tant mieux parce qu'on va en parler, justement. Puis je pense que parfois, les médias vont déborder de ce cadre-là informationnel pour pouvoir justement prendre plus de toucher les émotions, d'utiliser les émotions des gens pour pouvoir vendre plus. Parce que on s'entend, c'est un métier qui parfois perd... qui est tellement important.
C'est hyper compétitif, les médias. Là. T'sais, il faut que tu sois le premier qui a la nouvelle. C'est ça, il faut que tu aies le scoop. Puis, veux pas, ça amène les gens à aller vers des...
Puis si tu es le dixième à publier le scoop, ben, il faut vraiment que tu t'assures que ton information soit frappante, soit choquante. Donc, tu vas devoir aller genre prendre tous les petits points de vue, toutes les petites informations à côté pour que ta nouvelle soit la plus pertinente possible. Fait que, t'sais, ça amène souvent que les gens vont comme... faire beaucoup pour pouvoir aller chercher comme la pépite d'information.
Ça va aller vers des mesures extrêmes, là, justement, comme, là, je pense.
Ben, il y a un nouveau métier aux États-Unis. Ben, c'est pas nouveau, là, mais il y a vraiment en montée depuis l'élection de Trump, les trackers, en fait, que leur travail, eux, c'est de se promener, aller dans les rallyes des politiciens, souvent républicains, attendre de voir s'ils disent quelque chose qui sort de l'ordinaire, parce que souvent, on voit que les politiciens disent pas la même chose en région, qu'ils disent en ville, parce qu'ils veulent convaincre une différente démographie de personnes.
Ben oui.
Fait qu'eux vont chercher les petites erreurs pour essayer d'aller chercher un scoop, une première page, un grand titre.
Ben oui.
Alors que c'est pas... on sort vraiment du cadre informationnel, comme Florence a dit. On n'est plus dans le rôle premier des médias. Là. On essaie juste de chercher des petites bébites sur la vie personnelle des gens, sur...
Mais ça, est-ce que tu dis que ces trackers-là que tu expliques, est-ce que c'est des gens qui sont un peu commissionnés de faire ça par exemple, une opposition politique?
Oui,
ou,
c'est des gens qui sont engagés de chaque parti politique. Je connais pas beaucoup qu'est-ce qui se passe au Québec à propos de ça.
Je pense que ça doit être moindre.
Ça doit être beaucoup moindre parce que c'est vraiment moins polarisé.
Ouais.
Mais aux États-Unis, souvent, ben, c'est le Parti républicain qui engage des trackers pour aller voir les rallyes du Parti démocrate et vice-versa.
OK. Puis le but, c'est d'aller chercher
aller chercher l'erreur. Aller chercher... personne a dit ça à Chicago, il a dit ça en Louisiane.
Okay.
Ces deux affaires-là n'ont pas rapport. Ce politicien-là n'est pas honnête.
Fait que c'est vraiment au niveau informationnel. C'est pas on cherche le scandale, genre un peu comme à la paparazzi. Là. C'est plus comme on veut voir s'il y a des erreurs qui sont dites.
Oui, mais je pense que ça peut être très payant.
Ouais, c'est
dès
ça.
Avoir la vidéo d'un politicien qui dit quelque chose qu'il ne devrait pas dire.
Ouais.
Ou dire un mot qu'il ne devrait pas dire. Ou...
Peu importe. Mais c'est ça. De juste aller tout chercher, puis on peut aussi se demander est-ce que c'est les médias qui ont débordé de ce qu'on dit informationnel ou c'est juste rendu que c'est avec l'omniprésence des médias partout que peu importe, disons, ça peut retourner faire un lien justement avec le dernier podcast qu'on a parlé de justement l'absence de vie privée des gens, que tu vas être un politicien en campagne et tu vas avoir tout le temps des gens qui vont te suivre pour pouvoir gagner ces petites nouvelles-là.
Mais on l'a vu avec la candidate là, qui était contre PSPP. Là. T'sais, juste ce petit truc-là, là, qui est un vidéo. Ah, j'ai enlevé un dépliant.
Ouais. Ça a complètement changé le cours de sa campagne.
Puis, c'est ça.
Ça fait pas de... Je pense que oui, placé comme ça, avec comme la description qui fait une candidate de Québec solidaire, vole un pamphlet, malhonnêteté électorale. Mais on se sépare de ça. Je pense que ça fait pas d'elle une mauvaise personne, mais... Ouais.
Ça la rend juste plus humaine si ça peut l'aider de juste aller faire une campagne. Elle l'a vu sortir, puis elle a juste écouté la petite voix en elle qui a fait comme tu peux l'enlever, vas-y.
C'est une énorme erreur de jugement, mais tu sais, après ça, c'est que ces gens-là, souvent, ils reçoivent des menaces de mort. Est-ce que c'est proportionnel
au geste?
Au geste, tu sais, oui, voler des dépliants, on est d'accord. Je pense qu'on est tous d'accord autour de la table. Ça se fait pas. Mmh. Mais je pense que les médias créent ça aussi, là. Mmh. À chaque nouvel exemple, on s'en va sur le Facebook de TVA Nouvelle, chaque commentaire, c'est négatif. C'est que du négatif de...
Mais oui. Puis tu sais, même potentiellement qu'elle... Pourquoi peut-être qu'elle a fait... Là, évidemment, je parle peut-être à travers mon chapeau, mais peut-être qu'elle a fait ce geste-là parce que justement, elle s'est dit, OK, ben je suis contre le chef d'un parti. Donc là, il y a beaucoup de médias sur lui. On parle beaucoup de lui dans sa campagne. Fait que moi, si je vais avoir une chance, tu sais, peut-être... Fait que c'est peut-être même les médias, tu sais, qui l'ont poussé, je sais pas. Tu sais, ça peut être une hypothèse.
Puis peut-être que ça aussi, c'était un geste que définitivement, elle n'aurait pas dû faire. Mais est-ce que ça a été complètement amplifié par le médiatique?
Oui.
100%.
C'est un pamphlet, après tout. Oui, ça représente quelque chose de plus gros, mais ça reste que les personnes qui posent ces gestes-là ne devraient pas avoir à faire face à des menaces de mort, à des... Tu sais, c'est...
Puis même à se retirer de la course, oui. je veux dire. C'est quand même...
Exactement. Puis tu sais, je trouve qu'on peut faire un lien, justement. Peut-être, on va en reparler un peu plus tard, mais comment, justement, tout ce que les médias peuvent dire sur quelqu'un peuvent complètement aussi changer comme une personnalité publique. Je sais qu'Edouard va avoir des exemples, peut-être, après la pause. Oui. Mais tu sais, si on prend, par exemple, notre premier ministre, Justin Trudeau. Si tous les matins, tu l'ouvres ton journal, ça va être écrit, OK, fait que Trudeau a fait ça, Trudeau a fait ci, Trudeau est une mauvaise personne. Peut-être qu'aux prochaines élections, t'auras pas le goût de voter pour lui parce que tout ce que tu vas avoir vu, c'est du négatif. Oui. Fait que tu peux tellement facilement dépeindre une personne comme étant complètement négative, autant que tu peux idéaliser une personne par le biais des médias.
Ouais. Mais je pense qu'il y a une nuance à faire aussi. Je pense que les journalistes, ils ont une éthique là, de travail, dans le sens que c'est pas tous les journalistes. Tu sais, veux pas, il y a une grande partie qui est du sensationnalisme dans les médias de nos jours, mais je pense qu'il y a énormément de journalistes, tu sais, qui sont extrêmement compétents puis qui vont jamais aller à chercher, tu sais, le petit truc puis le faux titre puis la désinformation. Ouais. Mais la désinformation de nos jours, on le voit dans les médias sociaux, c'est énorme.
Mais je pense pas que ça vient d'une... Justement, comme tu dis, je pense pas que ça vient d'une mauvaise intention des journalistes, mais je pense que c'est juste inconscient. Si jamais on... Mettons, je suis journaliste, je vois que quand j'écris sur un tel sujet,
ça pogne,
c'est incroyable, j'ai une promotion, tout marche bien. Mais quand j'écris sur la bonne action de ma ville,
c'est
souvent, on va chercher aussi pour son intérêt personnel, puis c'est aussi sur comment les gens réagissent. On met la faute sur les médias, mais les médias sont un peu une réflexion de nous.
Oui.
Les médias nous donnent ce que nous on veut. Exactement, oui.
Je pense qu'il y a aussi beaucoup de journalistes indépendants. Il y en a qui vont avoir une super bonne sécurité d'emploi, qui vont être engagés, puis peut-être à ce point-là, je m'y connais pas beaucoup sur le métier de journaliste, mais je pense que pour ces journalistes indépendants-là, tu es obligé d'avoir des nouvelles qui vont pogner dès que tu vas les sortir pour pouvoir justement avoir un bon emploi puis avoir un bon salaire. Fait que tu sais, c'est beaucoup d'incitatifs à faire des nouvelles, mais tu sais, en tant que tel, c'est clair que c'est pas la majorité, puis la plupart sont neutres dans ce qu'ils font.
Mais tu sais, comme quand on parle que justement les gros titres, tout ça, c'est ça qui va attirer l'attention. Puis que tu sais, quelqu'un qui suit pas tant les nouveaux, tu sais, comme l'actualité ou quoi que ce soit, puis qui se fie vraiment juste aux gros titres dans les journaux, bien c'est sûr là, que des fois, il peut avoir de la désinformation, il peut avoir, tu sais, veux pas, tu sais, t'écris le, tu sais, c'est quoi le mot, le clickbait, là? Tu sais, que comme on voit ça beaucoup sur YouTube, tout ça, tu mets le gros titre qui va attirer l'intérêt. Puis ensuite de ça, dans l'article, il y a peut-être des nuances, il y a quelque chose d'un peu plus, tu sais, un propos plus intelligent, mais le titre, il est punché, fait que ça fait en sorte que là, la personne a dit, ah, oh, si le titre dit ça, ben c'est ça la nouvelle, puis c'est
ça. Puis les gens lisent pas.
C'est ça, ils lisent pas plus loin que ça, puis ben ça crée de la désinformation.
Puis en même temps, je peux comprendre, parce que on peut dire, ah, oh, les gens s'informent pas, mais c'est pas tout le monde qui a le temps nécessairement ou l'énergie de faire, je vais lire chaque nouvelle. Que...
Oui.
Je pense qu'il y a une responsabilité de la part des grands médias de faire attention à ce qu'ils mettent justement dans leur page titre, dans leur grand titre, parce que
dans l'édition, là, dans le
on voit que la plupart des gens, même les gens qui achètent le journal, vont finir par lire les grands titres, puis c'est ce qu'ils vont lire vraiment la petite nuance.
Garder la section sport.
Ouais, c'est ça.
C'est ça. Au final, tu sais, on dit souvent que ton fil d'actualité va se personnaliser beaucoup sur pour ce que qui t'intéresse au final. Mais exemple, tu vas lire le journal, tu vas lire juste ce qui t'intéresse, puis je vais peut-être faire une généralisation aussi, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui vont beaucoup moins lire les journaux ou lire l'actualité parce que, pas que c'est pas accessible, mais en tant que tel, il y a plus grand monde qui lise les journaux papier.
Ouais, exact.
Sinon, c'est des nouvelles sur ton téléphone.
Mais tu sais, il y a des affaires aussi comme moi, j'ai une application, ça s'appelle Volve. Puis ça, c'est comme des nouvelles qui sont vraiment là. Comment dire ça, comme raccourci, là, comme vraiment un résumé d'une nouvelle. Puis quand tu rentres sur l'application, tu mets vraiment tes intérêts. Puis genre, qu'est-ce que... Fait que, tu sais, moi, c'est sûr que je mets politique, tout ça, tout ça. Fait que j'ai les nouvelles de l'actualité. Mais c'est sûr que si toi, tu coches sport, art, musique, tout ça, tu sais, tu vas avoir l'actualité des sujets qui t'intéressent. Mais toutes les autres, t'as pu faire une sélection de genre, tu sais, pas voir l'actualité. Fait que des fois, tu sais, t'es... Puis comme tu disais, je me semble hier ou quelque chose, tu sais, tes amis, des fois, sur Insta, et ils vont juste... T'sais, prendre un... Comment on appelle ça? Des petits visuels. Là,
ben, en fait, c'est comme les panoramas. Mais pas les panoramas, mais c'est les galeries de genre petites nouvelles,
ouais,
qui vont être faites par, disons, des pages... je me souviens, c'est des pages qui veulent faire des... Justement, comme un peu clickbait aussi.
Ouais.
Ce que j'ai vu passer récemment, c'était comme des personnes aux États-Unis qui disaient que les femmes qui se faisaient avorter, genre, méritaient la peine de mort. C'est un gros clickbait. C'est choquant. Donc, ouais, les gens vont aller lire ça puis vont être choqués. Donc, ils vont le repartager. Mais j'ai pas lu toute la situation. Clairement, qu'il y a plusieurs points de vue qui vont embarquer dans cette situation-là. Clairement, ce n'est qu'un point de vue. Donc, est-ce que de prendre ces informations-là directement, c'est beaucoup mieux que de ne rien lire, définitivement. Mais est-ce que c'est la meilleure façon d'aller chercher des informations?
Mais tu sais aussi, je trouve ça vraiment drôle, moi, des fois, quand il y a comme une tendance là, que tout le monde sur nos réseaux sociaux vont repartager la même story, par exemple, comme sur une guerre, sur ce qui se passe en Iran, sur l'Ukraine, tout ça. Tout le monde partage la même story avec la même information. Puis là, une semaine plus tard, il y a une personne qui dit, ben, ce qui était écrit dans cette story-là, ben, c'est pas vrai.
Ouais.
Il crée un nouveau post. Puis là, ça devient genre que là, ah, ben, soudainement, c'est ça, c'est le contraire. Fait que là, tout le monde en repose, tout le monde en repose. Fait que personne va au fond des choses, j'ai l'impression.
Puis parfois, c'est même pas les bonnes informations. C'est justement, je pense que c'est l'affaire avec les feux en Amazonie, il y a peut-être 2 ans. Au final, les gens ont repartagé les photos et c'était une photo qui avait été prise en Australie ou quelque chose de même. Donc les gens étaient comme, ben, t'as même pas utilisé le bon la bonne photo pour pouvoir pousser ton contenu. T'as juste pris la photo qui était la plus choquante, tu l'as mis, t'as dit, regardez, il y a des feux en Amazonie. C'est vrai que des feux en Amazonie, c'est hyper grave, mais utilise pas des faux.
Ouais. Tu sais, je vais apporter une nuance parce que c'est pas toutes nécessairement les nouvelles sur les réseaux sociaux qui sont mauvaises.
Ouais,
je suis un compte sur Instagram, c'est Ground News, puis en fait, ça évalue tous les médias sur une échelle de gauche-droite, en fait.
Okay.
Puis ça nous donne une nouvelle, puis ça donne tout ce que les grands titres des médias par rapport à cette nouvelle-là.
Ah,
fait qu'on
ouais.
peut voir que tel média, exemple Fox News, aurait écrit tel.
C'est un titre
oui, exact.
Sensationnaliste.
On voit vraiment la différence.
Ah, ouais.
Il y a une énorme différence. Souvent, il y a des mots au complet qui ne sont pas mentionnés. Je pense à justement tout ce qui avait rapport avec Roe v. Wade aux États-Unis.
C'est ça.
Quand ça s'est arrivé, ben, il y avait vraiment. On voyait des deux bords de l'échiquier politique.
Spectre, ouais.
C'est le jour et la nuit. Là. Fait que je peux comprendre les gens qui tombent dans leur comme chambre d'écho puis qui arrêtent d'écouter ce qui se passe autour d'eux parce que tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, c'est les mêmes mots, dits par les mêmes personnes, par les mêmes médias. Puis l'algorithme fait ça aussi. Là. Je pense pas que c'est les gens qui choisissent d'être « OK, je me ferme totalement. » Parce que tout le monde pense qu'ils ont la bonne... Tout le monde dans le spectre politique pense qu'ils sont les personnes les plus informées puis que toutes les autres sont idiots. Puis...
Oui, c'est ça.
Qu'eux détiennent la vérité la plus pure puis que ce qu'ils donnent comme information. Puis c'est vrai que c'est faut mettre la nuance... Toutes les pages Instagram de nouvelles ne sont pas des mauvaises pages.
Ouais.
Vraiment, tu peux
aller
suivre Radio-Canada sur Instagram, qui vont publier des trucs qui vont être super pertinents.
Tu sais, comme la page RAD, là, ça a vraiment créé comme de l'information digestible, informée, tu sais, pertinente. Fait que pour quelqu'un qui, justement, ne suit pas l'actualité de façon, tu sais, aussi avide de lire les journaux, d'écouter les nouvelles, tout ça, ben là, tu as une nouvelle résumée par une source qui est fiable, puis ça peut vraiment rendre ça plus accessible.
Ça, c'est vraiment un bon coup de Radio-Canada, puis je trouve que c'est vraiment
un
très bon exemple, la meilleure exemple, selon moi, d'un média qui se réveille puis qui fait « OK, les jeunes ne veulent plus lire les journaux.
Ouais.
Les jeunes n'écoutent plus la télévision, ils n'ont même plus le câble. Qu'est-ce qu'on fait?
»
Eux se sont réveillés, puis ils se sont dit « C'est mieux d'avoir de l'information, oui, qui est digestible, oui, que... » Là, s'il y a plein de dessins dessus, oui, c'est très résumé, mais au moins, les gens vont avoir la bonne information, puis vont avoir une information simili-neutre, en fait, parce que c'est sûr qu'il n'y a pas de neutralité totalement,
Mais
ça permet aux jeunes, puis moi, je vois justement sur mon fil Instagram, des gens jamais s'intéressent à la politique, jamais s'intéressent aux événements du monde, mais quand même, ils suivent RAD.
Ouais.
Moi, on dirait que j'aime mieux voir un repost de RAD qu'un repost d'un compte Instagram. Tu sais pas c'est qui est propriétaire, tu sais pas c'est qui le finance non plus. Il y a beaucoup de lobbies aux États-Unis qui financent des comptes Instagram. c'est fou comment ça va loin, là.
Mais oui.
Puis si je peux rebondir un peu sur ce que tu disais tantôt, que justement, comme quand les gens, il y a un conflit qui éclate quelque part dans le monde, c'est tout ce que tu vois sur Instagram. Mais je trouve que ça vient pas faire un lien avec le point de genre le conflit en Ukraine qui est tellement important en ce moment, qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place sur, disons, la sphère, sur l'espace
dans
médiatique.
Dans tous les médias. Ouais.
Dans tous les médias, j'ai googlé le mot Ukraine hier pour pouvoir juste continuer un peu ma recherche. Les deux premières pages, t'as même plus la page Wikipédia quand tu rentres, quand tu tapes Ukraine. C'est toutes des pages de justement qu'est-ce qui se passe en Ukraine, qu'est-ce qui se passe là-bas. Et ce qui est tellement important parce que c'est un pays qui est justement occidental, qui est en Europe, qui est une démocratie, c'est hyper important de savoir ce qui se passe là-bas. Mais le fait que toute l'attention médiatique a été portée là-dessus, on n'a plus du tout entendu parler de tous les autres conflits qui se passent dans le monde. Et Dieu sait qu'il y en a énormément ailleurs.
Ouais.
Fait que c'est comme de mettre le focus sur quelque chose qui est tellement important, mais ça vient comme...
C'est ça, parce que la guerre, en tant que telle, elle est tu sais, je veux dire, c'est un événement tragique qui se passe en ce moment. Fait que c'est normal que la nouvelle se dirige vers ça. Mais il y a tellement d'autres événements tragiques dont on parle jamais dans les médias. Puis ça revient au fait de, ben les médias, ben ils ont un certain pouvoir éditorial, puis ils ont un certain pouvoir de choisir qu'est-ce qu'ils mettent dans leurs médias. Puis, ben on parle les conflits là en Afrique en ce moment, les conflits dans le Moyen-Orient, tout ça qu'on entend depuis la guerre en Ukraine encore. On n'entendait déjà pas parler, là on entend encore moins parler. Puis c'est comme si on avait comme focus une attention particulière sur l'Ukraine parce que l'Ukraine, comme tu disais, c'est un pays occidental, c'est un pays qui est proche de l'Europe, qui est en Europe puis qui, tu sais, qui semble avoir une culture similaire à la nôtre, donc c'est important qu'on en parle. Mais tout le reste, c'est comme si...
T'sais... On dirait que le conflit en Ukraine a juste mis en lumière que finalement, peut-être que la paix démocratique n'existe pas vraiment. Puis ça vient comme... Parce qu'il y avait comme un gros âge d'or de la démocratie. C'est comme, OK, peut-être que c'est pas génial. Fait qu'on va super beaucoup documenter ça, mettre beaucoup de, genre, diaboliser la Russie là-dedans, genre la Chine qui est en allié, mais... C'est ça, tu sais, tous les conflits qui font tellement plus de morts en Afrique. On va parler du Congo avec, genre, tout ce qui est avec le Rwanda. Tu sais, je sais qu'on peut parler du Yémen, de l'Éthiopie, qui a le conflit encore du Tigré, qui n'est pas fini depuis, genre, 2019. Genre, c'est des choses qui tuent beaucoup de monde. Puis, justement, les gens qui en parlent pas, ça fait que je trouve que le média a vraiment un pouvoir de, genre, focaliser l'attention sur un conflit et de lui donner toute son importance dans le restant du monde, justement. Si, disons, les médias commençaient à sortir en masse, d'aller documenter ce qui se passe au Congo, peut-être qu'on serait beaucoup plus attentifs à ce qui se passerait. On voudrait s'informer de sa situation. Fait que c'est tout ce pouvoir-là que les médias ont.
Tu sais, puis c'est qui décide dans les médias? Puis surtout que, je pense que ça serait important d'avoir plus de transparence, selon moi, parce que Radio-Canada, étant un média qui est financé en partie par nos impôts, ça serait intéressant de pouvoir voir, puis... J'applique ça à tous les médias en général, de pouvoir voir qui décide quoi, quel conflit est assez important et sur quel baromètre on se base.
Ouais, c'est ça.
Tu sais, sur quoi on se base pour décider que les Ukrainiens, leur combat, il est assez important pour qu'on aille le documenter, qu'on aille aller voir les histoires humaines, qu'on aille voir pourquoi la géopolitique, pourquoi c'est intéressant, mais pourquoi en Afrique, ça fait des années et des années, des dizaines d'années qu'il y a des dictateurs, qu'il y a des révoltes. Pourquoi on en parle pendant deux jours? Ou comme exemple, quand il y a eu l'assassinat du président en Haïti, je pense que c'est l'an passé. Puis, on n'a pas beaucoup parlé. Puis pourtant, c'est un leader.
C'est proche de nous, en plus.
Assassiné.
Ouais.
C'est...
Mais c'est comme, c'est ça, c'est... by the way, tu sais.
Mais je pense aussi que, tu sais, c'est un peu le lien avec justement le métier de journaliste. C'est... qui va de correspondant à l'étranger. Je pense que c'est quelque chose aussi qui coûte cher. Puis c'est mon père qui m'a envoyé cette nouvelle-là la semaine dernière, qui sur les ondes de 98.5, qui parlait que Radio-Canada commençait à avoir moins de budget pour pouvoir envoyer des correspondants en Ukraine. Puis tu sais, mine de rien, t'as aussi une question hyper monétaire en arrière de ça, de est-ce qu'on a l'argent d'envoyer des correspondants dans tous les conflits? Puis tu sais, je pense aussi que t'envoies un correspondant en Ukraine, qui est un pays... peut-être plus similaire aux nôtres. C'est sûr que t'as beaucoup de différences culturelles, t'as pas le même langage, peu importe. Mais t'envoies quelqu'un en Afrique, c'est une culture complètement différente. Tu vas avoir un système politique complètement différent. Fait que c'est, je pense que c'est peut-être plus compliqué de bien analyser le conflit, de pouvoir mieux le documenter aussi. Fait que je pense que tu as peut-être aussi ce problème-là de justement documenter tous les conflits, mais tu sais, ça rend pas le problème moins pire, disons.
Mais c'est sûr que peut-être envoyer quelqu'un dans un conflit, je sais pas, là, tu sais, quand c'était en France, là, juste les manifestations, c'est moins compliqué que d'envoyer quelqu'un en Éthiopie, c'est sûr, là. Mais rendu là, tu sais, comme évidemment, mais je pense que comme tout dans la vie, là, toutes les compagnies, que ce soit des médias ou autres, ben il faut qu'ils fassent une analyse coût-bénéfice, mais tu sais, couvrir la nouvelle qui est, tu sais, une nouvelle là, qui change le cours de l'histoire, tu sais, comme des guerres en Afrique, puis des coups d'État, tout ça, que tu te dis, c'est comme si on voulait pas en entendre parler, genre. Puis c'est tellement important de sortir de notre zone, genre, tu sais, occidentocentriste, là, genre. On parle tout le temps des conflits en Europe, tout ça, puis on dirait que, moi, personnellement, si je m'intéresse pas aux autres conflits ailleurs, ben j'en entends pas parler dans les médias traditionnels ou dans les médias que même je subis sur les réseaux sociaux, là.
Puis, t'as aussi l'affaire que, là, je vais prendre, par exemple, le génocide de Rwanda en 1994. Le Conseil de sécurité n'a pas vraiment agi. T'sais, c'est comme, OK, c'est un fait connu, ça n'a pas vraiment... Ils ont envoyé les casques bleus, c'était leur part. Si, disons, le conflit avait été beaucoup plus parlé, si les gens en avaient vraiment parlé, ça aurait devenu une pression, comme, disons, je sais pas, quand les États-Unis devaient envoyer des troupes, je pense que c'était en Corée, c'est pas en Corée du tout...
Vietnam,
c'est ça, okay. Vietnam. Tu sais, les gens se sont révoltés contre ça. Les gens ont fait la pression, comme pour le pays, comme si les gens avaient fait autant de pression contre leur pays pour pouvoir envoyer justement du monde au Rwanda pour régler le conflit plus vite. Est-ce que on aurait pu justement régler ça plus vite si les gens avaient vraiment, c'était révolté, c'était fâché contre leur gouvernement de genre vous ne faites rien, vous êtes dans l'inaction.
Ouais, je pense que tu touches de quoi parce que on parle beaucoup des médias depuis tantôt, mais c'est... au fond, c'est nous, les citoyens, qui ont un peu le pouvoir de décrier une situation. Puis je pense que c'est pour ça que les réseaux sociaux, ça peut être utile aussi, parce que ça permet une communication plus rapide puis plus franche, selon moi, que dans les médias traditionnels où c'est seulement une minorité de personnes qui ont accès au pouvoir de faire connaître de l'information ou faire connaître un conflit. Fait que je pense que ça part de nous. Puis comme Charlotte avait dit... J'ai l'impression qu'il y a un manque d'intérêt des citoyens envers les conflits qui se passent, que ça soit au Moyen-Orient ou que ça soit en Afrique ou en Asie. On dirait que dès qu'il y a un minuscule événement, que ça soit en Europe ou en Amérique du Nord, c'est comme si c'était une révolution, mais des guerres, il y en a partout, tout le temps. C'est constant. Fait que c'est
puis même où que on va trouver... c'est constant dans ces parties-là du monde, souvent. Puis que justement, quand on est en Europe, ben là, c'est...
Ah, ouais, c'est comme si c'était spécial.
C'est parce que c'est ça, c'est normalement, c'est un environnement stable. Puis là, soudainement, tu sais, wow, OK, il y a des bombardements dans un pays. Il y a un pays qui envahit un autre pays. Genre, qu'est-ce que c'est ça? Nan, nan, nan.
Je pense
ça rend, je pense que ça vient aussi d'un sentiment de, ah, genre, ça pourrait-tu nous arriver à nous, tu sais? Genre, peut-être pas en Amérique du Nord, dans le sens qu'on est tout entouré d'alliés, mais je veux dire, quand même, il y a du monde qui sont proches quand même. Mais, tu sais, c'est de là à dire, oh, on est dans notre petite paix tranquille, mais... Who knows, peut-être que ça
je pense qu'on se pensait immunisé à ce genre de conflit-là, mais là, on pensait que c'était qu'un problème des pays en voie de développement et des pays qui n'avaient pas une stabilité politique très grande, mais on se rend compte que même des pays comme, en guillemets, je fais des guillemets en ce moment, comme le nôtre, ont des problèmes politiques très importants, puis de la famine, il y en a même dans des pays en Europe, puis des guerres, il y en a même des pays en Europe, des destructions aussi, des morts.
Même, on parle de la famine, mais disons, la malnutrition, c'est un problème qui touche partout, tous les pays dans le monde.
Oui.
Fait que, c'est au-delà de la famine, il y a des problèmes de malnutrition énormément aux États-Unis.
Mais la pauvreté, juste de base, là, la pauvreté aux États-Unis, c'est un fléau. Là. Comme c'est un pays qui est complètement genre... T'es le pays le plus industrialisé ever, puis... Il y a du monde, la moitié du monde sont pauvres puis ils sont pas capables de subvenir à leurs besoins.
C'est supposé être l'hégémon, mais au final, tu vas voir, puis c'est comme...
C'est comme l'autre côté de la médaille un peu. T'sais, on veut tellement monter les pays en Occident, les médias veulent tellement monter les pays en Occident que, justement, peut-être qu'on va pas chercher ces petites failles-là qui sont chez nous. T'sais, quand on parle de famine, tout le monde pense au Yémen, tout le monde pense à des pays qui sont super loin, super étrangers de nous, mais encore aujourd'hui au Québec, il y a des gens qui mangent pas le matin parce qu'ils ont pas l'argent de manger, mais on voit pas souvent ça dans les médias. C'est souvent qu'on parle de... Souvent, on associe, je pense, un certain problème à un certain pays. Les guerres, c'est en Afrique. C'est en Europe, c'est tel problème, c'est l'extrême droite en ce moment. C'est comme si on voulait associer chaque région à son problème, les catégoriser comme ça, on n'a plus besoin d'y penser, puis c'est comme, OK, mon travail est fait, genre.
C'est surtout, en même temps, d'idéaliser... d'idéaliser notre nation, puis de juste comme, OK, on est le meilleur modèle, on n'a pas de failles, tout va bien. Et ça, en même temps, tu sais, aussi amener une nuance. Dès qu'il y a un problème qui touche, disons, un de les pays comme les nôtres, justement, comme... Parlons du terrorisme aux États-Unis, que genre, je sais pas si vous avez vu les statistiques, que c'était comme... Le taux d'accident terroriste qui est arrivé aux États-Unis versus la part des médias qui parlaient de ça.
Oui, c'était
complètement disproportionné, que justement, il n'y avait pas eu tant d'accidents, mais que le monde avait tellement peur que ça faisait toutes les couvertures médiatiques. Mais, tu sais, c'était pas le vrai problème au final. C'était juste que les médias avaient...
Mais c'est quand ça revient à comme l'intérêt, comme là, évidemment, terroriste, c'est la sécurité nationale. Mais tu sais, même juste en Ukraine, là, si on revient à l'Ukraine, genre... Pourquoi on en parle autant? C'est parce que en Ukraine, il y a des intérêts américains, il y a des intérêts occidentaux.
Oui,
là,
je veux dire,
tout ce qui est économique, là, l'Ukraine, c'est un point.
La volonté de joindre l'Union européenne. C'est pour ça qu'on les voit, selon moi, comme... Je pense que dans la perception des gens, souvent, on les voit comme nos amis. C'est nos alliés de base, mais pourquoi? C'est pourquoi ça serait eux, nos alliés? L'Ukraine, avant qu'il y ait tout ce conflit-là, avant qu'il se fasse envahir, il y avait des problèmes. Il y avait des réels problèmes en Ukraine. C'est drôle que, juste à cause qu'on a des intérêts là-bas, ça soit automatiquement nos amis, puis c'est automatiquement, on vous accueille, mais les autres pays, si jamais vous aviez eu comme des débordements politiques, on n'est pas d'accord avec vous, c'est comme, vous n'êtes pas nos amis, vous êtes...
Mais on a un peu moins d'intérêt avec, d'impliquer dans vos, dans votre pays.
Mais pourtant, c'est des vues humaines.
Tu avais aussi la présence que l'Ukraine était sur le bord de rejoindre l'OTAN, donc les États-Unis avaient encore plus un intérêt militaire avec l'OTAN, avec l'Ukraine. Ils n'ont pas rejoint finalement comme l'organisation, mais tu sais, ils étaient sur le bord. Fait que tu sais, t'as comme l'Union européenne, t'avais presque l'OTAN. Puis en plus, c'est quand même considéré comme le garde-manger de l'Europe, l'Ukraine. Ouais. Donc, t'as beaucoup aussi d'importance Là, c'est des champs qui sont dévastés, c'est de la nourriture qui est en moins.
C'est vrai qu'au début du conflit, ça me fait rappeler ça. Au début du conflit, c'était beaucoup ça qu'on attendait. C'était les conséquences sur nous. Qu'est-ce que ça va faire sur nous? Puis c'est peut-être ça. C'est peut-être pour ça aussi qu'on veut tant préserver la paix dans cette région-là. Parce que justement, le garde-manger de l'Europe, les Européens, ils se disent, ils voient cette expression-là, ils sont comme, on veut manger nous. Alors que dans un autre conflit, peut-être qu'ils n'ont pas autant d'intérêt à garder la paix. Puis pour eux, ça.
Ça les concerne moins. Exact. Ils se sentent moins concernés. Ils sentent moins qu'ils sont menacés par ces situations-là.
Puis même par ça, t'as toute la perspective aussi de genre. OK, la Russie est méchante là-dedans. Par exemple, les sanctions économiques qui ont été imposées par les autres pays à la Russie, on peut penser à l'Allemagne, qui avait une grosse dépendance énergétique à la Russie. Oh non, justement, ça a une conséquence sur nous. On dépend de cette énergie-là. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est vrai qu'on peut peut-être percevoir les conflits comme ils ont beaucoup plus d'importance parce qu'ils ont plus d'importance pour nous.
Ouais.
Alors que, disons, au Congo, ça nous touche pas beaucoup, c'est très loin de nous, c'est pas sur le même continent, c'est pas occidentalisé, c'est comme...
Oui, 100%. Mais on va en profiter pour faire une pause, parce que j'aimerais vraiment ça, à la suite, qu'on parle de ces conflits-là, mais des impacts que ça a chez nous. Donc, soyez des nôtres, on se revoit bientôt.
Avide de découverte, tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chiziennes? Visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca.
Les mercredis de 19h30 à 21h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Tu dévores les journaux, tu te régales de politique, tu salives lorsqu'on te parle d'actualité. Les Affamés, c'est l'émission pour toi. L'actualité décortiquée de façon simple, intéressante et surtout appétissante. On s'attaque aux dossiers les plus complexes dans l'actualité pour t'aider à y voir plus clair. Tout ça dans la bonne humeur. Les Affamés, c'est ta source d'information et divertissement par excellence de midi à 13h sur les ondes de Chiz 94.3.
Vous êtes de retour à l'écoute d'A priori, l'émission et podcast des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Donc, je suis toujours accompagnée de Florence et Édouard. Puis, dans le fond, on parlait avant la pause de la médiatisation des conflits et tout ça. Mais quand on parle des conflits, tu sais, je veux pas, on parlait que ça on a des intérêts ailleurs. Puis, c'est pour ça souvent que la médiatisation concerne certains conflits et pas d'autres. Mais justement, c'est que ces conflits-là ont des conséquences chez nous. Puis je pense que ce serait super intéressant d'aborder l'aspect, tu sais, des immigrants qui émanent de ces conflits-là. Donc, des fois, c'est des réfugiés, des fois, c'est juste des gens qui parviennent à quitter le pays. Donc, je vous écoute là-dessus.
Ouais, ben moi, qu'est-ce que ça me fait penser? C'est un point spécifique sur l'immigration liée au conflit russo-ukrainien. Premièrement, en France, on a beaucoup vu que plusieurs médias, plusieurs, pas polémistes, mais chroniqueurs, plusieurs panels politiques, on percevait vraiment les personnes issues de, les réfugiés ukrainiens comme étant de la bonne immigration, en guillemets. Mais c'est quoi de la bonne immigration? Ouais. Comment on décide qui est un bon immigrant? Parce que, tu sais, exemple, plusieurs pays comme la France, ils peuvent avoir des réfugiés ou des immigrants économiques qui viennent de l'Algérie, la Tunisie, qui sont deux pays qui sont plus proches géographiquement et même culturellement de la France que l'Ukraine, alors on se base sur quoi? T'sais, ils ont des plus grandes communautés francophones, puis on sait que la francisation, c'est vraiment un gros facteur quand on parle d'intégration, une bonne intégration d'une personne issue de l'immigration. Fait que pourquoi les Ukrainiens seraient des bons immigrants alors que d'autres... Moi, ça me laisse un...
Mais
un
c'est que c'est tellement, tu sais, le terme, le
ouais,
bon immigration.
Bon, ça laisse c'est un comme s'il y avait besoin de nous donner quelque chose pour avoir notre accueil. C'est comme si c'était un échange de services.
Oui, c'est ça.
On dirait que, de base, c'est aussi que le fait qu'on a perçu autant l'Ukraine dans les conflits, on dirait que ça donne un certain capital de sympathie à toutes ces personnes-là qui viennent d'Ukraine. Mm-hmm. Donc, OK, ben tu sais... « Ah, il fuit un conflit, vraiment, ah, c'était horrible. » Mais tu sais, oui, il fuit un conflit, c'était horrible. Oui. Mais il y en a d'autres, des conflits, puis c'est partout. Puis tu sais, justement, genre, tout ce qui est culture, tout ce qui est langue, c'est tellement... Disons, je pense qu'ils parlent ukrainien, justement, là-bas. C'est tellement loin du français, alors que, justement, t'as des communautés françaises. T'as énormément de communautés françaises en Afrique. Puis tu sais, je trouvais que ça faisait un peu un lien, je la statistique ici... Depuis comme le 1er janvier 2022, fait que depuis comme un an, il y a comme 175 000, non, même plus que ça, 200 000 immigrants ukrainiens qui sont arrivés au Canada. Puis tu sais, c'est énormément beaucoup, alors que pour ce qui est des personnes genre africaines, c'est beaucoup plus difficile. Puis je faisais un lien justement avec le Québec, que je pense, je me sais plus si c'est au niveau de universitaire ou au niveau de la province, mais qui demandait d'avoir plus d'immigrants genre d'origine africaine, parce que c'est des immigrants français, et on s'entend que l'enjeu de la langue au Québec, c'est hyper important, fait que s'ils peuvent avoir plus de personnes qui parlent déjà français, c'est hyper avantageux, mais tu sais, c'est moins bien perçu, ou peu importe.
Mais moi, je pense qu'il y a aussi une nuance à faire, parce que, oui, il y a la guerre en Ukraine, sauf que c'est important de savoir que la communauté ukrainienne au Canada... était, tu sais, bien avant ce conflit-là, était très importante, là. Tu sais, on parle actuellement, là, au Canada, il y a 1,3 million de Canadiens qui sont issus, ben, qui sont d'origine ukrainienne, tu sais. Puis il y a un fort, je veux pas dire lobby parce que c'est pas ça, mais il y a des associations ukrainiennes, là, qui sont déjà, tu sais, qui poussent beaucoup pour, tu sais, ces enjeux-là, puis ils poussent pour qu'il y ait comme, que leurs enjeux soient pris en compte, là. J'avais vu, justement, que le Canada, c'est le premier pays qui a reconnu l'indépendance de l'Ukraine lors de l'implosion de l'URSS à cause des pressions de ces groupes-là qui avaient fait ça. Puis même affaire, Stephen Harper, en 2014, avec l'annexion de la Crimée, tout ça, là, il avait prononcé des critiques super sévères par rapport à Poutine. Puis il y avait vraiment eu de la pression, encore une fois, de la communauté ukrainienne-canadienne. Donc oui, je pense qu'en ce moment, le conflit a beaucoup amplifié l'aspect de « Ah oh, oui, il faut accueillir les Ukrainiens ». Mais les Ukrainiens, il y en a beaucoup au Canada depuis longtemps. Puis, tu sais, je pense que ça a juste amplifié le phénomène.
Selon moi, c'est vraiment un enjeu qui est profondément politique, justement, parce qu'il y a tellement de pression. Mais il ne faut pas oublier que des gens qui pourraient se qualifier de réfugiés, il y a des gens qui viennent de la Russie aussi. Là. Mais on dirait qu'on n'a pas justement le même... Il n'y a pas le même capital de sympathie pour les gens parce qu'il y a
Mais on les perçoit comme les méchants.
Oui, c'est comme... Eux sont vus comme étant les méchants, mais pourtant, jusqu'à il y a 25-30 ans, c'était le même peuple, entre guillemets. Puis, pourquoi on leur accorde un rôle de... Ah, eux sont profondément méchants.
Ouais.
Eux sont très gentils, c'est les victimes. Alors qu'il y a beaucoup de Russes qui souffrent, beaucoup de Russes qui veulent dénoncer cette invasion-là. C'est alors, ça. Eux aussi... mérite notre respect, mérite notre accueil autant que la communauté ukrainienne. Puis je trouve qu'il y a eu ça s'est peut-être perdu ce respect-là pour les gens vu qu'on les associe à leur pays.
On l'associe à Poutine, straight up.
C'est
comme...
Excuse-moi, je t'ai coupé.
Non, c'est vraiment juste ça.
J'allais dire justement comme le peuple russe est extrêmement victime de Poutine chaque jour. Puis c'est ça, on va souvent associer comme le conflit à « OK, c'est la Russie qui attaque ». Alors que c'est vraiment le gouvernement, le Kremlin, qui prend toutes les décisions. Et on l'a vu comme quand le conflit a commencé un peu, que les gens qui contestaient les mesures de Poutine, ben souvent ça finissait en prison ou ça disparaissait pour des raisons mystérieuses. Donc, je pense vraiment au final, la Russie et le peuple russe est quasiment la première victime de ce conflit-là.
Oui. Puis il y a pas beaucoup de couverture médiatique aussi sur ça. T'sais, on parle beaucoup des médias dans cet épisode-là. Puis On vient parler de comment les médias peuvent façonner une personnalité ou un peuple en général. Là, en ce moment, ce qu'on voit, c'est russe égale méchant, ukrainien égale gentil.
Ouais.
Alors que c'est tellement plus nuancé que ça, mais on dirait qu'on va pas chercher à voir plus loin que cette dichotomie-là un peu qui
est simple à avoir.
Oui, c'est tellement plus simple dans notre tête.
C'est logique de juste... Ah ben, évidemment.
Puis ça vend tellement plus. Le fait de démoniser un certain peuple au dépend de quelqu'un d'autre, c'est comme...
C'est ça. T'as le bien, t'as le mal, puis c'est facile à comprendre. Mais tu sais, je veux dire, il n'y a pas eu beaucoup de couverture médiatique en Russie. Mais en même temps, est-ce qu'il y aurait vraiment pu avoir de la couverture médiatique en Russie? Je pense pas.
C'est compliqué.
Ouais. Fait que tu sais, c'est encore une problématique que les journalistes ne peuvent pas vraiment aller en Russie, ils ne peuvent encore moins faire des articles, ils vont vraiment donner leur point de vue. Donc...
Ouais, c'est sûr. On parle d'immigrants, mais c'est pas juste les Ukrainiens, là. Je sais que vous voulez parler aussi un peu là, du chemin Roxham, puis ce que ça impliquait.
C'est ça, parce que en tant que tel, on peut considérer les Ukrainiens sont des réfugiés, mais... Au Québec, on a quand même beaucoup de personnes qui arrivent justement par le biais de ce chemin-là. Et ça fait quand même polémique quand ça a sorti, quand les gens en ont entendu plus parler. Et les partis politiques se sont positionnés quant à cet enjeu-là. Et vraiment, c'était comme encore une fois comme peut-être Québec solidaire était comme les gentils, les autres partis étaient peut-être comme moins en accord parce que justement ils veulent un meilleur contrôle de l'immigration, de l'immigration, mais plus ou moins de l'immigration, c'est plus des réfugiés. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, encore une fois, je pense que les médias sont un peu partis avec cette histoire-là, puis c'est encore comme... Justement, je pense que c'était plus ton point, Edouard, si tu voulais compléter ça.
Puis je trouve que les médias se sont fait un malin plaisir à diaboliser les deux camps. T'sais, on voyait vraiment... c'était comme les péquistes sont racistes, détestent les immigrants, veulent plus les accueillir... Puis de l'autre côté, c'était les solidaires, eux, ils veulent l'abolition des frontières, ils veulent pas protéger nos intérêts, ils veulent pas que la social-démocratie marche. Fait que c'est comme où on... T'sais, il y a tellement plus de nuances, mais pour les médias, quand on voit un panel politique, quand on a 5 minutes dans notre journée pour savoir qu'est-ce qui se passe, souvent, c'est le plus simple à donner à quelqu'un, puis on va chercher les petites paroles de quelqu'un pour faire tout ce camp-là pense la même chose, mais par exemple, le chef d'un parti, c'est pas la vision même de ses députés, mm-hmm. c'est pas la vision de ses membres, c'est pas... Fait que je pense que c'est important de faire plus de nuances justement dans les médias pour pas que ça arrive qu'automatiquement, il y ait un camp qui se positionne, qui soit vu comme étant pro-réfugiés, puis un camp anti-réfugiés, alors que...
La réalité est tellement plus complexe oui. que ça. T'as tellement plus d'éléments à prendre en considération. Puis c'est, tu sais, définitivement, QS ne sont pas pour l'abolition complète des frontières et le PQ n'est pas exact. Complètement raciste.
C'est pour ça qu'il faut aller chercher dans le milieu, parce que c'est là que ça se trouve, là, la vérité. Puis c'est Mais quand c'est on dit que les médias, ils débordent du cadre informationnel, c'est ça. Parce qu'on ne veut plus informer exactement de qu'est-ce qui se passe, de qu'est-ce qui est proposé à l'Assemblée nationale. On va vraiment chercher les petites bébites en conférence de presse, les petites choses pour t'sais, dire, et voilà ce qu'elle pense.
C'est ça, l'interprétation ouais. des mots aussi va Ultra tellement important. Changer. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que si on parle du fait que, tu sais, vous disiez que le PQ, genre, il était perçu comme ci, comme ça, ben c'est peut-être juste parce que l'utilisation d'un mot a fait en sorte que, ah, oh, il y en a un qui a vu ça comme, ah, oh, son raciste, l'autre a vu ça comme, ah, puis tout de suite, là, ça prend des proportions.
Quand, alors que souvent, réalité, c'est des erreurs, là. C'est on ça. Dit tous des expressions, on pense pas, tu sais, souvent, on grade pas à quel point c'est supposé être intense. Eux, mm-hmm. tu sais, ils travaillent toute la journée sur des dossiers comme ça. Des fois, ça peut devenir vraiment émotionnel. Puis, tu sais, surtout la cause des réfugiés, mm-hmm. c'est quelque chose qui est profond. Tu sais, ça vient nous toucher, ça vient nous chercher. C'est des humains, on voit de la misère humaine, on voit comment ces gens-là souffrent. Fait que c'est difficile pour nous d'être super neutre. Puis, c'est la même chose pour les journalistes. On peut pas. S'attendre à ce qu'un journaliste soit totalement neutre face à une famille qui ne mange pas à sa faim, qui est persécutée dans son pays d'origine, persécutée politiquement, socialement, économiquement. Fait...
Mm-hmm. Puis je trouve qu'on peut faire un lien un peu plus loin, par contre, avec, disons, la loi 21, qui est un peu aussi la même, la même perspective du PQ, qui a cette loi-là, elle a fait beaucoup écho, mais surtout dans le Canada anglais.
Mm-hmm.
C'est sûr que le lien que je viens de faire avec ton point est un peu plus loin parce que ça fait plus longtemps qu'on a parlé de cet enjeu-là. Mais disons.
C'est la perception d'un parti, mais sur un autre enjeu.
Fait que disons, tu vas aller dans le Canada anglais, puis ils vont utiliser justement des termes. Ils vont peut-être décrire cette loi-là avec justement comme les aspects plus négatifs de cette loi-là, qui est comme OK, ben vraiment, on veut laïciser. OK, on veut pas les symboles des minorités religieuses. On veut pas voir ça. Ça, c'est plus correct. T'as plus le droit d'exprimer ta religion. T'as plus le droit de justement. Ils sont pas tolérants genre pour ces enjeux-là. Fait que ça a été vraiment la diabolisation littéralement de cet article-là de loi. Tu sais, vous pouvez vous positionner contre, vous pouvez vous positionner pour, mais tu sais, en tant que tel, je pense que le but c'était la laïcisation parce que c'est un enjeu de la langue et de la culture québécoise. Mais tu sais,
mais il y a eu une diabolisation peut-être même d'un parti, mais du peuple québécois du Québec, de
c'est
mort,
tout le concept du Québec ça, bashing en général. C'est ça, on est allé T'sais, alors que la loi 21, après tout, c'est vraiment pas tous les Québécois qui étaient d'accord avec
ça. Non, vraiment pas.
Parce que nous, c'est sûr que, je pense, selon moi, il y a une grande partie des gens qui étaient d'accord avec la loi 21, justement, après ce que les médias nous avaient présenté. Les médias au Québec ne nous l'ont pas présenté de la même façon que les médias au Canada anglais l'ont présenté à la population. Donc, selon moi, ça représente pas la vision du Québec, parce que, tu sais, on rétrécit vraiment, là. C'est vraiment entonnoir. Là. On a la population du Québec, les députés, députés du Parti québécois. C'est comme, on va vraiment chercher une minorité de personnes qui sont supposées représenter comme
le Québec au grand complet.
Puis comme la grande diversité d'opinions qu'il y a au Québec, c'est pas vrai que c'est tout le monde qui est pour la loi 21, puis c'est pas vrai que tout le monde qui sont pour la loi 21 sont automatiquement des mauvaises personnes, puis c'est pas vrai que les gens qui veulent continuer à porter leur signe religieux, c'est des mauvaises personnes. Mais je trouve que c'est ça le problème en ce moment avec les médias, c'est qu'on va chercher à catégoriser un certain groupe de personnes puis faire ça égale méchant, ça égale idiot, ça égale... Mm-hmm. J'ai un peu de misère avec ça, ce concept-là.
Le mot égale forcément xénophobe. Il y a beaucoup plus de nuances là-dedans à apporter au final.
Mais encore là, c'est le punch. T'sais, c'est le...
C'est l'effet vendeur.
Puis c'est aussi, tu sais, ça crée le nous versus eux. Là.
Oui.
Tu sais, comme au Canada anglais, veut pas, tu sais, tu vois, ah, au Québec, ils font ça. Ouais, imagine vivre là. Wow, tu sais, comme.
Mais même affaire pour nous, je pense qu'on tombe dans le même piège.
On tombe dans le même piège par rapport à. C'est ça, là.
Mais ça a tombé aussi dans les élections, qu'on a réalisé qu'il y avait beaucoup d'États qui étaient encore très conservateurs au Canada, puis on était comme. OK, parce que je pense que le Québec, en tant que tel, se positionne plus de gauche. On a un système qui est un peu plus de gauche. Fait que c'est de voir. C'est ça, juste pour comme l'assurance santé, puis l'assurance maladie, le système d'éducation. Mais tu sais, t'as encore des États qui ont des opinions différentes de nous dans le reste du Canada. Fait que t'as tout ça. Je me comprends.
Oui. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais tu sais, c'est sûr qu'on passe à Alberta, tout de suite, on imagine pétrole, pays conservateur, puis on passe au Québec, puis hydroélectricité, puis waouh, on est
alors que je pense qu'on a beaucoup plus en commun. Tu sais, en tant que souverainiste, justement, c'est difficile. Tu sais, souvent, on voudrait que toutes les personnes, exemple, un souverainiste dise « Ah, ben là, l'Alberta, État, province pétrolière, ça aligne pas avec mes valeurs, sont full différents de moi. » Mais je pense que juste de se parler, avoir un dialogue entre... Parce que justement, on a une séparation des médias francophones au Canada et des médias anglophones. On se parle pas. Il y en a pas de communication. Fait que nous, on va chercher ce qui se passe là-bas. On fait « Oh, ouais, c'est vraiment pas chic ce qui se passe là-bas. Ils sont vraiment idiots. » Eux font la même chose pour nous. Il y en a pas de dialogue là-dedans. C'est qu'à aller chercher les petites bébites puis faire... On est full différent. Alors que, après tout, c'est que, tu sais, on n'a pas des systèmes politiques si différents que ça. Là.
Littéralement, on a vraiment le même système.
On est dans le même
état. C'est sûr qu'il y a des différences.
Ouais, ouais. Mm-hmm.
Mais après tout, c'est. Moi, je déplore vraiment ce manque de dialogue-là.
100%.
Qui nous empêche de voir que, ben, chaque province a de quoi offrir. Puis peu importe nos opinions politiques, ben. T'sais, on a tout de quoi apporter à la table, puis qu'on n'est pas juste la catégorie dans laquelle on nous a mis. Là.
Une autre chose que j'aimerais peut-être parler, ça serait aussi comme la perception que les médias peuvent donner à des leaders politiques.
Oui.
Que je trouve ça tellement intéressant, comme je parlais justement d'un peu dans l'introduction, que si on commence à sortir des nouvelles tous les jours sur Justin Trudeau, comme quoi il fait ci pas correct, il fait ça pas correct, c'est forcément un mauvais premier ministre, il gagnerait pas ses prochaines élections.
Pis, mais tout comme tu pourrais avoir quelque chose d'aussi banal que « Ah, il était donc bien beau » à cette conférence-là. Tu sais, comme des médias vraiment. Qui sont très juste en mode « paraître » puis « Ah, oh, Justin Trudeau paraît bien. Ah, oh, le monde aime Justin Trudeau. »
Ben, souvent, affaires-là. On se base sur des bons coups. Tu sais, exemple, on parlait justement de la perception des personnalités politiques. On s'était déjà parlé, moi et Florence, justement, de comment l'évolution de la perception de Paul Saint-Pierre Plamondon... non seulement au sein du Parti québécois, mais aussi au sein de la société québécoise. Au début, ça n'avait pas été facile. La course à la chefferie du PQ, ça n'avait pas été super facile. Puis même les membres, on ne sentait pas une grande confiance envers PSPP. Mais après ce qui s'est passé avec refuser de prêter le serment au roi, tous les bons coups qu'il a fait, je pense que les médias sont allés chercher ça. Puis on l'a vraiment édifié comme étant une personnalité forte, quelqu'un qui se tient debout, quelqu'un qui serait comme... vraiment un bon match pour être premier ministre, alors qu'au début, ben alors que les médias disaient on n'a pas super confiance, les panélistes disaient ouf, on n'est pas sûr que c'est la personne de la situation, ben là, oh, les gens faisaient moins confiance à Paul Saint-Pierre Plamondon. Je trouve ça drôle, comment c'est guidé.
Il était tellement édicté de manière négative au début, puis justement, je pense, au sein de son parti, les gens avaient plus ou moins confiance,
moins
les gens
enthousiasme,
doutaient. Et vraiment,
un parti très divisé au début. Puis là,
récemment, tu as eu l'Assemblée générale du Parti québécois et il y a eu un taux historique dans son vote de confiance qui est de 98,51% de ses membres qui lui faisaient confiance.
C'est fou, là.
Fait que la c'est montée jamais vu, là. Que ça a faite de justement comme... Ben, tu sais, oui, le premier... mon Dieu, j'allais vraiment dire le premier ministre. Le chef du parti a vraiment fait un parcours quasiment sans faute. Il a fait des bons coups après bons coups, il a fait des belles choses.
Oui.
Mais tu sais, les médias ont énormément joué un rôle là-dedans.
On voit que, tu sais, oui, 98,51%, c'est encore plus fou à penser quand on voit qu'ils ont seulement obtenu 3 députés aux dernières élections. Oui, le score était bon en termes de pourcentage. Oui, c'est encourageant. Oui, ils montent dans les sondages. En ce moment, dans les sondages, sont techniquement la deuxième place,
j'ai vu ça. Oui,
sont l'opposition officielle en termes de pourcentage de vote. Mais quand on regarde par siège, quand on regarde réellement les pertes qu'il y a eu au Parti québécois depuis l'entrée en fonction de PSPP, c'est tragique.
Mais
c'est
pensez-vous que justement, là, parce que avec toute l'histoire du serment et tout ça, moi, je pense que ça va avoir vraiment influencé certains Québécois. Là,
oh oui.
Dans le sens que, tu sais, ça va être genre, oh my God, ce gars-là, il a dit qu'il allait faire ça. Il l'a fait, ça a fonctionné, ça a passé, même s'ils sont juste 3.
C'est super rafraîchissant pour les gens.
C'est
là.
C'est ça, c'est rafraîchissant. Puis j'entendais du monde parler justement de ça il n'y a pas longtemps. Des gens qui sont pas péquistes, tu sais, c'est pas des gens qui s'identifient à ce parti-là, mais qui sont comme, hey, il est quelque chose, celui-là. Là, t'sais.
Ben oui.
Il commence à dégager un aura de, c'est ça, comme tu disais, là, de vraiment quelqu'un qu'on a confiance. Là.
Puis en tant que tel, il y a souvent comme le préjugé de qu'est-ce que tu vas faire avec 3 députés à l'Assemblée nationale? Tu feras pas grand-chose, tu sais. Mais ouais. Là, il était même pas encore rentré dans l'Assemblée nationale et il avait déjà fait, genre, changer les choses.
Oui, puis je pense que ça, justement, même avec 3 députés, je pense que pour plusieurs, c'est comme un... C'est super rafraîchissant. Les médias le présentent comme étant une présence qui est rafraîchissante à l'Assemblée nationale parce que ce qu'on voit depuis la victoire de la CAQ en 2018, c'est vraiment une opposition constante entre le fédéral, le provincial. On veut quelque chose, le fédéral veut pas. Le fédéral veut quelque chose, nous, on veut pas. C'est tout le temps le bras de fer, alors que lui, c'est comme si les médias le présentent comme étant lui qui se tient debout. Mais ça, ça a eu un effet fou sur sa popularité. Là, sans ça, selon moi, il y aurait vraiment pas le même score qu'il y a eu, 98,51%.
Puis encore là, je pense qu'il y a aussi la nuance à faire que ben, le serment, je veux pas, c'est un enjeu qui je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui sont en accord. T'sais, que la monarchie, c'est un peu dépassé, le fait que c'était tellement quelque chose que les Québécois étaient en accord, que tu sois de tel parti ou tel parti, que là, ça a juste rallié énormément de gens qui sont de différents, tu sais, d'idéologies politiques à faire, ben ce gars-là, il a fait quelque chose, ben ce parti-là, là, on va pas généraliser, mais ils ont fait de quoi pour tous,
ouais.
Tu sais. Puis je pense que ça aussi, dans les médias, les médias, ils l'ont aussi porté, ils ont fait un portrait, ben par rapport à ça. Oui. Tu sais, c'était un idéal pour tout le monde. Fait que, OK, on le met dans les médias comme un idéal, tu sais. Fait que c'est sûr que ça l'a aidé aussi, j'imagine.
Ouais. Je pense pas que c'est aussi le premier personnage politique que, justement, il fait des choses dans... On souligne énormément ses bons coups dans les médias et que ça change complètement son pourcentage d'appréciation. T'sais, le meilleur exemple, c'est Modi, Narendra Modi, qui est le chef du BJP, qui a été élu en 2014. Il y a eu 73%. C'est un organisme aux États-Unis, en fait, c'est comme le World Appreciation of Leaders, de quoi de même.
Okay.
Et ça évalue justement le pourcentage d'appréciation des leaders politiques dans leur propre pays.
Mm-hmm.
Et c'est le premier au monde, avec un pourcentage de 73%. Et pourtant, c'est un premier ministre extrêmement... qui est très axé vers l'idéologie hindouiste, vers la suprématie de, justement, l'Hinduva, qui est comme la pureté extrême, disons, hindouiste. Mais tu sais, en tant que tel, il y a beaucoup de problèmes en Inde.
Mais oui.
Il y a beaucoup de ces lois idéologiques qui ont été extrêmement répressives pour les castes plus basses, pour les minorités religieuses, parce que
t'as
une grosse communauté religieuse musulmane. D'ailleurs, c'est la plus grande communauté musulmane au monde, mais c'est une minorité là-bas.
Ouais.
Puis tu sais, on voit dans la... Comme il y a toujours une médiatisation, un portrait comme médiatique super positif dans les médias en Inde qui sont peut-être d'une indépendance un peu... Peut-être un petit peu de la misère avec la séparation entre l'État et les médias. Mais là, on le voit, tu sais, exemple, en 2016, il y a eu des représailles du gouvernement en Inde suite vraiment sur la ligne du cessez-le-feu du conflit du Cachemire. Puis, ben le premier ministre, lui, était vu de ces représailles-là comme étant quelqu'un de fort. Il s'est tenu debout, on s'est fait attaquer. Alors, il était très violent, il était très fort, mais les médias, ils n'ont pas fait « Oh, il y a eu tant de morts, ça s'est pas bien passé, il y a eu des pertes humaines, il y a eu des pertes économiques, une grande perte pour la région en général. » Non, on est tout de suite allé à « Oh, c'est un homme fort, c'est quelqu'un qui se tient debout, c'est... » Puis ça a eu un grand impact sur le nationalisme indien, sur la progression de son parti, le BJP, puis ben son influence qui est vraiment grandissante sur l'Inde. Il y a vraiment une main de fer de plus en plus sur l'Inde. Puis tu sais, on voit ça un peu partout dans le monde, là, comme récemment en Chine.
C'est ça. Mais tu me fais penser que j'ai lu un livre là-dessus, puis c'était genre Strongman Democracy. Puis ça parle justement de ces leaders-là charismatiques qui dirigent leur pays avec une main de fer. Fait qu'on peut penser justement à Poutine, à Xi Jinping, à Erdogan en Turquie, qui sont tous des leaders nationalistes et qui viennent beaucoup rejoindre les classes moyennes de leur pays. Qui, c'est juste parce que genre ils se tiennent debout, puis ils font des mesures que personne d'autre n'ose à faire. Mais oui,
c'est le genre de personnage traditionnel de, en guillemets, l'homme fort, l'homme qui sait tenir le pays. Alors que, finalement, il y a un bilan politique quand même
pas si positif que ça.
Pas si positif.
Mais moi, j'ai comme... Ben, je sais pas si vous le savez, mais tu sais, 73%, mais c'est qui? Tu sais, c'est qui a donné ce vote-là? Là?
Donc...
Comme... Ouais.
Je peux te le dire.
OK.
Ben, en fait, il y a 10% des musulmans qui votent quand même pour lui. Dans les dernières années, en fait, c'est que Modi vient d'une basse caste. Il était premier ministre de sa région, qui est au Gujarat. Et c'était, je pense, une des régions les plus riches de l'Inde. Et c'est majoritairement grâce à lui. Il a vraiment développé beaucoup le secteur des technologies là-bas. Il a beaucoup contribué à l'industrialisation de cette province-là. Et ensuite, quand il s'est présenté pour être premier ministre, il a promis à l'Inde de faire un Inde comme le Gujarat. Donc, non seulement il ralliait comme les castes très élevées, parce que justement, les castes élevées aimaient son parti, il vient rejoindre les castes basses, parce que lui, c'est un homme des castes basses, il vient rejoindre un peu de musulmans, et il vient rejoindre toutes les castes dans le milieu. Fait que c'est ça qui a contribué à ce que, genre, il soit super populaire.
Oui, c'est quand même, mais... Ça... Parce que, tu sais, moi, je me disais peut-être justement que le 73%, c'était genre, justement, les castes plus élevées qui votaient, puis c'était ça qui était ça, puis...
Ça prouve à quel point les médias ont un rôle à jouer dans la perception du peuple, parce qu'on pourrait... Ça serait pas fou d'affirmer que Modi va un peu à l'encontre des intérêts de la population musulmane en Inde, mais pourtant, on voit le 10%, c'est une personne sur 10 quand même, là. Puis c'est pas vrai que c'est toutes des gens qui veulent voter à l'encontre de leur intérêt. C'est des gens, souvent, que eux, toute leur journée au complet, ils se font dire, ben, c'est un leader fort. Tu sais, quand on se fait répéter à répétition,